Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'ai appuyé sur enregistrer, normalement on est tout bon.
Parfait.
Salut Laura.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va, merci, et toi?
Mais écoute, super bien, je suis en pleine forme, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. On est à Lyon, t'habites ici depuis le mois de novembre, tu m'as dit?
Exactement, ouais.
Nouvelle vie post-JO, trop cool, et tu t'y plais ici?
Oui, carrément, ouais, là j'ai l'impression d'avoir bien trouvé mes marques, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, c'est plus grand que Grenoble, ça change un peu. Mais non, franchement j'ai l'impression d'avoir un super environnement autour de moi pour performer et pour être bien dans ma tête, quoi. Donc, c'est chouette. J'ai hâte de voir la suite.
Trop cool. Et c'est avec d'autres rameurs que vous avez déménagé ou c'est juste toi qui a fait le choix de venir ici?
Non, c'est moi qui ai fait le choix de venir ici parce que Lyon, ça cocher plusieurs critères. Déjà avec mon copain, on voulait habiter ensemble, ouais. Donc c'est une ville très attrayante au niveau de sa profession. Donc pour trouver un boulot, c'est plus facile. Moi, au niveau de mon métier aussi, je suis à la SNCF, j'ai un contrat avec la SNCF, donc c'est à Lyon-Part-Dieu, donc c'était compliqué de faire des allers-retours tout le temps pour travailler depuis Grenoble. Et puis aussi, il y a le pôle France d'Aviron qui est à Lyon, à côté de Lyon, à Miribel-Jonage, où Claire, d'ailleurs ma coéquipière, s'entraîne à l'année. Donc voilà, j'avais envie aussi de rejoindre un gros groupe qui s'entraîne pour du très haut niveau, quoi. Donc ça cochait plusieurs critères, ouais.
Ouais, trop bien, ouais. Et puis j'avais entendu aussi que tu étais assez proche de l'EM Lyon, peut-être. Non, c'est l'école de Grenoble, pardon.
Oui, c'est ça. J'ai fait Grenoble École de Management.
Ok, ouais, pardon.
À Grenoble, exactement. Et oui, j'avais un cursus spécialisé, exprès pour les sportifs de haut niveau. Donc c'était chouette de pouvoir continuer les études en même temps que le sport.
Bon bah écoute, trop bien. Je sens que tous les planètes s'alignent pour toi, donc ça fait plaisir à entendre. Comme je te le disais en préparation, alors j'aime bien commencer par cette fameuse question traditionnelle sur le podcast qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
De sport en général, moi mon premier souvenir, celui qui me marque le plus je pense, c'est quand je faisais du tennis. C'était bien avant de faire de l'aviron, j'étais vraiment toute jeune. Et je faisais du tennis et j'aimais bien ça, mais j'étais vraiment pas très forte, quoi. Et je me souviens que je perdais tous mes matchs et c'était horrible. Et le sport, en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'aimais pas forcément quand j'étais petite, quoi.
C'est vrai?
Ouais, c'est assez marrant.
Wow. Et puis, tennis, sport de duel aussi, donc pas facile, quoi.
Ouais, exactement, okay. Sport de duel. Et ouais, à chaque fois, j'avais pas du tout l'esprit de compète quand j'étais petite. Et du coup, d'aller sur un match et tout, je voyais pas trop l'intérêt de gagner, pourquoi faire mal aux autres, j'étais vraiment pas du tout dans ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est assez marrant de voir l'évolution, quoi.
Ok, trop cool. T'en as fait combien de temps du tennis?
Du tennis, j'en ai fait 3 ans.
Ok. Et mais c'est marrant de dire, tu vois, de voir un peu l'évolution, qu'on peut être un enfant et pas avoir spécialement l'esprit de compétition ou l'envie de gagner et finalement d'être capable de transformer ça avec l'âge. Aujourd'hui, est-ce que tu vois, c'est pas un sport de duel l'aviron, mais t'es quand même sur une course, il faut quand même être meilleur que les autres.
Ouais.
Comment est-ce que t'as transformé ça? Aujourd'hui, comment ça s'exprime ton esprit de compétition, peut-être.
Ouais, je pense que ça s'est fait assez naturellement, dans le sens où je me suis mis à fond dans l'aviron. C'est un sport qui m'a tout de suite plu. Il y avait une grande équipe de filles de mon âge au club de Grenoble. Elles avaient l'air de s'éclater. Vraiment, j'avais envie de m'intégrer à ce groupe-là, de me faire plein de copines. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à m'entraîner de plus en plus. Et du coup, ce groupe-là, en fait, il était hyper fort. J'ai eu de la chance d'atterrir dans un club. On était le meilleur club français à l'époque.
Ouais,
et du coup, un gros groupe très performant. Et donc, grâce à ça, j'ai intégré ce groupe-là. Et du coup, c'est vrai que à partir de ma deuxième année, je fais déjà championne de France avec les filles. Et en fait, petit à petit, les médailles sont arrivées. Et au début, j'étais jamais toute seule. C'est vraiment le groupe. Donc, je me disais, c'est grâce aux autres que je suis médaillée. Et en fait, plus les années avancent et plus on a de compétitions aussi en individuel. Et, et là, j'avais à cœur aussi, moi, de réussir toute seule. Mais je pense que c'est vraiment avec les entraînements, en fait, que je me suis forgé un peu ce caractère. C'est pas vouloir écraser les autres parce que j'ai jamais été dans ce truc-là, mais c'est plus vouloir moi me dépasser, être à mon 100% le jour J et savoir pourquoi je m'entraîne, en fait, que ça convertisse le bon jour, quoi. Mais jamais en étant vraiment dans le truc de il faut que j'écrase tout le monde et un truc un peu malsain, c'est pas trop moi, quoi.
Mais je te comprends à 1000%. Je sais pas si tu sais, mais moi j'ai fait sport-études tennis, donc j'ai fait beaucoup de tennis et j'en ai fait une overdose, quoi, justement, de cet esprit de même si je suis pas bon, il faut que je gagne, et si je peux rendre l'autre encore plus mauvais, je vais le faire. Et il y a un côté effectivement sur le duel qui était très dur à gérer. Et aujourd'hui, je me rends compte avec l'âge que je suis beaucoup plus heureux, épanoui, et j'ai beaucoup plus l'esprit de compétition, ou dans les sports où je suis beaucoup plus maître, tu vois, de ma performance individuelle, sans que ça influe trop sur les autres et qu'il n'y ait pas ce rapport un peu de force et de confrontation, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu ça, hein, l'aviron, on est chacun dans notre lindo, donc j'ai pas... moi j'ai pas forcément tout de suite des moyens pour que l'autre aille moins vite, en fait c'est juste moi qui peux aller plus vite que l'autre, mais je peux pas influer sur sa performance directe, quoi. C'est pas un sport de combat, je suis pas, enfin voilà, c'est à moi d'aller le plus vite dans ma ligne d'eau et point barre, quoi.
C'est vrai quoique bah tu sais, on parlait de Jérémy Azou juste avant de commencer, tu te souviens de son histoire à Londres là avec les avec les Anglais, donc lui il le voit un petit peu comme une tentative de déstabilisation cette Je me souviens plus exactement techniquement, mais en gros, durant les 100 premiers mètres, tu peux avoir un problème technique.
C'est ça, ben.
Et les Anglais ont essayé de démarrer très fort. Le rameur est sorti de sa chaise, plus ou moins.
Exactement.
Et ils ont simulé une faute technique, alors qu'il n'y en avait pas vrai, enfin, une casse technique, alors qu'il n'y en avait pas vraiment eu, quoi.
Ouais, bah après, on saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, je pense, si c'était fait exprès ou pas. Mais oui, c'était ça. Avant, il y avait une règle. Bah, depuis ce moment-là, il n'y a plus cette règle. Donc maintenant, qu'il se passe dans les 100 premiers mètres, la course ne s'arrête pas. Mais oui, en fait, ils ont eu un problème. Ils ont eu un problème sur le bateau anglais et du coup ils ont tout de suite levé la main, la course s'est arrêtée alors que peut-être ils avaient juste fait un mauvais démarrage et en fait bah ça a pénalisé tout le monde parce que tout le monde a dû recommencer, quoi.
Ouais, c'est clair. Puis sachant que Jérémy c'était, enfin son gros point fort c'était notamment le départ où il arrivait à être costaud, forcément s'il a fait un kilomètre dans le vent, peut-être pas un kilomètre,
c'était
mais
pas un kilomètre, mais tout de suite ça,
centaines de mètres,
même quand on n'y est pas préparé psychologiquement, je pense sur un départ de finale des Jeux Olympiques, faire un faux départ, commencer et tout, enfin ça prend du jus, quoi, donc c'est sûr que c'est pas facile.
C'est des choses auxquelles toi tu t'es préparé avant ta finale ou même avant une compétition, tu te prépares un peu, je sais que t'es un peu friande de développement personnel et de préparation mentale, à visualiser des éléments un peu perturbateurs comme ça ou des faits de jeu complètement imprévus?
Bah ça m'est arrivé beaucoup par le passé d'essayer un peu de tout prévoir, les différents scénarios de course, mais en fait je me suis vite rendu compte que on a beau prévoir 100 scénarios, c'est peut-être encore un autre qui va sortir du chapeau le jour J. Donc non, je prévois plus. Enfin, j'essaie plus de me dire ça va se passer comme ça, parce que on sait pas, en fait, mais j'essaie juste d'être hyper adaptable, de réussir à tout le temps m'adapter quoi qu'il se passe dans n'importe quelle situation, de le prendre. De le prendre du mieux possible pour que ça influence le moins possible sur mon état psychologique, sur ma perf, et enfin ça reste que après je dois faire une course au taquet, donc peu importe ce qui se passe, il faut que je sois prête à y aller à fond. Mais du coup c'est vraiment, on a vraiment plus misé sur le mot adaptation, vraiment toujours être réactif plutôt que d'essayer de prévoir les 12 000 scénarios, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, vous avez capitalisé sur ce mot-là.
Ah oui, carrément.
Vous en avez parlé, vous l'avez verbalisé ensemble, vous avez travaillé dessus.
Oui, carrément. Bah, surtout là, avec le Covid et tout, c'est vrai que nous, notre préparation, elle a quand même été assez chamboulée.
Bien sûr.
Déjà, le report d'un an, donc ça, fallait l'accepter, fallait s'adapter. Et puis ensuite, même les 6 derniers mois, enfin, plus on se rapprochait de la compétition, plus, nous, on sentait qu'on y arrivait petit à petit, mais on avait encore ce doute de est-ce que ça va vraiment être maintenu, quoi. Jusqu'à la veille des Jeux, on était dans notre lit, dans le village olympique, et on voyait des articles passer comme quoi les Jeux pouvaient encore être annulés, quoi. Ouais. Donc, en fait, on s'est juste dit, ok, ça aura lieu, ça aura pas lieu, on sait pas, mais nous, en tout cas, si ça a lieu, il faut qu'on soit à notre meilleur niveau, qu'on ait aucun regret, et après, on verra comment ça se passe, comment la semaine des Jeux se passe, comment la série, la demi-finale, la finale, enfin, on prenait vraiment les choses les unes après les autres, au lieu de penser tout de suite à la médaille à la fin, que forcément, on rêvait d'aller chercher, mais vraiment plus de être capable de faire du mieux possible à l'instant présent tout le temps.
Est-ce que ça se travaille, tu vois, cette capacité d'adaptation du type, je sais pas, l'entraîneur un matin qui vient te réveiller beaucoup plus tôt ou qui te dit aujourd'hui vous allez vous inverser les places il y a plus de déjeuner ce midi, donc ça se travaille, enfin tu vois, il y a des petites techniques comme ça, vous avez fait des exercices?
Ça se travaille carrément, déjà ça se travaille dans l'état d'esprit, en fait, quoi qu'il se passe, ça peut être quelque chose à l'entraînement, quelque chose dans la vie perso, quelque chose, une organisation qui se passe pas exactement comme on aurait voulu, c'est réussir tout de suite à se dire ok,
c'est pas grave,
je l'accepte, en fait ça se passe comme ça, j'ai aucun moyen d'action dessus, enfin c'est un imprévu, c'est moi je peux pas influencer dessus, donc qu'est-ce que je peux faire là maintenant tout de suite pour que je l'accepte du mieux possible et que je reparte au taquet. Et ouais ça nous est arrivé, bah notre coach il aimait bien sur la dernière ligne droite par exemple pendant des séances de musculation où on a tel nombre de répétitions à faire, on en peut sur un exercice, donc par exemple les tirades, on a 70 tirades à faire à une cadence imposée. Ouais. Et ben il s'amusait à n'importe quel moment de dire ok bah là t'en rajoutes 30 et tu devais pas t'arrêter et tu devais aller jusqu'au bout de ta série quoi. Et en fait c'est juste le truc qui sur le moment t'énerve, t'as pas envie et t'es déjà claqué, t'as juste envie de faire le programme mais pas d'en faire plus quoi. Et non, t'étais obligé de tout faire parce que c'était ouais, ils nous testaient un peu comme ça quoi, de réussir à s'adapter tout le temps à ok bon bah je dois faire ça, bah je le fais et j'avance quoi.
Ouais, à changer le programme, à vous sortir un peu de votre zone de confort. Exactement. Et tout. Ouais. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et comment tu le travailles avec Claire, tu l'as dit beaucoup dans l'état d'esprit en parlant, en vous disant ok. Toutes les deux, bon bah quoi qu'il arrive, on c'est pas grave, on reste concentré et on avance. Mais je sais pas, peut-être que l'une est un peu plus contrôle freak entre guillemets que l'autre. Je sais pas comment ça se travaille à deux. S'il faut en parler, mettre des mots dessus, c'est.
Ouais, carrément. Bah c'est vrai que nous, on est un binôme, on est quand même très différentes, on est très complémentaires, mais très différentes.
Ouais.
Moi, je suis quelqu'un de plus posé, de plus calme, de plus réfléchi. Je prends vraiment le temps de prendre. Mes décisions, Claire est un peu plus un peu plus jeune, elle court à fond de partout et voilà. Mais enfin c'est chouette, c'est trop chouette de du coup qu'on soit complémentaires comme ça. Et on a énormément bossé sur notre communication beaucoup les deux dernières années avec notre préparatrice mentale.
Ouais.
Des coachings en individuel mais aussi en groupe en fait tous les trois avec notre entraîneur et c'était hyper important de travailler sur cette communication, sur réussir à
choix des mots.
Ouais, c'est le choix des mots parce qu'on s'est rendu compte qu'on disait souvent pareil mais pas du tout de la même façon. Enfin, en gros, on avait l'impression que l'autre disait l'inverse alors que pas du tout, elle disait exactement comme moi mais juste les mots n'étaient pas du tout les mêmes. Et du coup dans certaines périodes où c'est vrai que l'entraînement c'est souvent dur, on est fatigué, quand on se rapproche des compétitions on est stressé, nous on a le poids aussi qui joue un rôle parce qu'on est dans une catégorie de poids, donc on fait quand même un régime, donc on peut vite être irritable, enfin il y a quand même pas mal de petits grains de sable qui peuvent vite se mettre dans la mécanique quoi. Donc si on n'a pas une très bonne communication et une bonne osmose, ça nous a déjà joué des tours et entaché notre confiance quoi. Donc nous c'était hyper important de réussir à communiquer, à dire quand ça va, quand ça va pas, à se poser, faire des feedbacks et vraiment être ouvert en fait et pas avoir peur d'avouer des faiblesses ou des choses comme ça.
Ouais, mais c'est cool que tu puisses en parler aussi librement. Et j'ai cru comprendre aussi que toi t'avais traversé les mois avant les jeux une grosse période de doute parce que tu t'es blessé. T'as pu te reposer sur elle du coup à ce moment-là parce que c'est un projet de plusieurs années parce que vous avez quasiment toujours ramé ensemble, si je me trompe pas.
Oui, depuis 2017, on est ensemble, On est associés ensemble depuis 2017. Et oui, c'est vrai que sur nos premières années, on avait un peu le rôle... moi, j'étais un peu la maman du bateau et je faisais beaucoup attention à Claire, voilà. Et des fois, ça nous a aussi un peu joué des tours parce que elle est très forte. J'ai énormément de confiance en elle. Enfin, j'avais pas forcément besoin d'avoir ce rôle-là, mais ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai plus d'expérience et que je suis plus âgée. Et c'est vrai qu'en fait, ça s'est un peu inversé. Et quand je me suis blessée à 6 mois des jeux, je me suis fait très mal au dos. J'étais arrêtée pendant 1 mois. Enfin, en tout et pour tout, ça m'a pris 2 mois vraiment à revenir à mon niveau avant ma blessure. Et dans la dernière ligne droite des jeux, c'est clairement pas la préparation optimale quoi, donc dans la tête il y a beaucoup de doutes et je me suis énormément reposée sur elle, enfin ça a vraiment été un pilier et je savais que pendant que j'étais blessée elle s'entraînait au taquet et elle avait hyper confiance, c'est même elle qui me disait ouais t'inquiète ça va le faire et tout, parce que moi il y a des jours où je me disais mais déjà est-ce que je vais rester dans le bateau, est-ce qu'à la fin on sera performante, enfin c'était dur quoi. Et après quand je suis revenue de ma blessure, il m'a fallu un petit moment quand même pour que mes perfs redeviennent à la normale quoi. Forcément, il y a eu un temps d'adaptation et je me suis vraiment reposée sur elle, sur son rythme. Comme si je ramais à l'aveugle, j'étais juste là pour essayer de reproduire son geste parce que je sais que à ce moment, c'était la meilleure de nous deux et qu'elle pouvait que nous tirer vers le haut quoi.
Ok. Et c'est dans le bateau, vous avez un rôle défini, tu vois. Je me demande entre celle qui est à l'avant, celle qui est à l'arrière. Est-ce que vous avez le même rôle? Parce qu'on peut, tu vois, d'un point de vue extérieur et un peu novice comme moi, quand on regarde à la télé, on peut se dire, bon, bah, en fait, les deux, elles rament et puis, voilà, c'est qui tire le plus fort, il y a une distance, faut aller le plus vite. Mais est-ce que, je sais pas, il y a un rôle de direction de, où il faut se parler, comment, quels sont les différents rôles sur le bateau?
Exactement. Ouais, c'est assez technique parce que, du coup, Claire est à la nage, donc c'est la personne de devant. Moi, je suis à l'arrière.
Donc, alors, attends. Quand tu dis
devant moi.
Sachant que vous, oui. quand on rame,
je suis la première à passer la ligne.
Ouais, t'es la première à passer la ligne.
Exactement.
Okay. Donc tu dis que tu es à l'avant ou à l'arrière du bateau?
Moi, je suis à l'arrière.
Tu vois, tu dis que t'es à l'arrière du bateau.
Ouais. Okay. Et Claire, c'est à la nage. Donc, okay. C'est la première dans le bateau. Et elle, vraiment, son rôle, c'est de faire un rythme le plus régulier possible. Vraiment, son rôle, c'est d'être un métronome du premier au dernier coup, d'être focalisée sur la glisse. Ouais. En plus, Claire, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sensations avec le bateau. Elle sait tout de suite si on est dans le bon tempo ou pas.
Okay.
Et du coup, bah, elle, vraiment, son rôle, c'est d'être focus sur l'allure du bateau, sur l'allure de la coque, okay. Si on la gêne pas, si on la brusque pas, si vraiment, enfin, de vraiment faire les mouvements dans le bon ordre.
Okay.
Et dans le bon tempo et toujours hyper régulière. Donc,
c'est elle qui s'assure que, ouais, la trajectoire glisse
exactement,
le plus possible.
Exactement. Ouais, exactement. Okay. Et moi, derrière, mon rôle, c'est de m'adapter vraiment à son rythme, en fait. C'est quoi qu'il se passe, je dois être au millimètre près avec elle, je dois être hyper coordonnée, beaucoup de cohésion. Et c'est moi aussi qui suis la plus puissante de nous deux. Donc, en fait, c'est vraiment un juste milieu à trouver entre je dois m'adapter à elle, donc c'est elle qui pose son rythme, et en même temps, elle se dit aussi je dois faire un rythme qui doit mettre à l'aise Laura derrière, parce que c'est Laura aussi qui amène des watts,
okay.
Même si elle aussi, elle pousse beaucoup.
Oui,
hein,
j'imagine.
Mais... Ouais, on pousse pareil, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même cette force-là de puissance, que elle, c'est plus dans le toucher de pelle et dans les sensations, et du coup, on se complète beaucoup. Et vraiment, son rôle, c'est d'être hyper focus sur le rythme et sur le bateau.
Ok, donc si...
Vas-y,
t'inquiète, vas-y, bois un petit coup, mais du coup, si je comprends bien, est-ce que c'est pas toi qui dois donner un peu plus d'infos?
Exactement. Ouais, c'est
elle,
ça.
Elle doit être vraiment concentrée, et limite, elle pourrait ramer les yeux fermés, enfin, non, parce qu'elle en a besoin d'avoir ses cinq sens, mais elle doit vraiment être concentrée sur son corps et sur le rythme qu'elle met, et toi, tu dois être un petit peu plus à l'éveil sur ce qui peut se passer,
Exactement, c'est ça, en fait. Moi, je dois donner les infos.
Ou...
Ouais, c'est ça. Moi, je dois donner les infos. Après, pas tout le temps. On se dit pendant la course, voilà, sur, une course qui fait 2 km, à peu près tous les 500 mètres, je dois jeter un coup d'œil sur la concurrence pour pouvoir avertir Claire de combien on est, en fait, en termes de position, si on est devant, derrière. Et elle, vraiment, son rôle, c'est d'être vraiment en focus, parce que si elle commence à tourner la tête tout le temps, bah, elle change de rythme. Si elle change de rythme, moi, je dois m'adapter, je dois changer aussi. Et après, c'est parti dans le mauvais sens, quoi.
Okay.
Donc, vraiment, moi, c'est à moi de dire les différentes infos, c'est à moi de lancer des relances aussi, des relances techniques, des relances sur les derniers 250 mètres, c'est l'enlevage, donc c'est le sprint final, c'est moi qui dois le lancer.
Okay.
Voilà, en fait, moi, je suis un peu les yeux extérieurs pour lui donner de l'info et pour qu'après, le bateau réagisse à deux, quoi.
Okay.
Et si on est les deux à tourner la tête tout le temps, on est plus concentré sur les autres que sur nous, et on sait très bien que on se donne les meilleures chances d'aller vite si on est focus sur nous-mêmes, quoi. C'est pas en regardant les autres qu'on ira vite, donc on est d'abord focus sur nous, et moi, je prends des infos de temps en temps.
Wow, ok. Mais écoute, c'est dingue. Merci pour ces précisions, parce que tu vois, je pense que les auditeurs penseront pareil. Tu vois, c'est des choses qu'on ressent pas. Et si on n'a pas un spécialiste qui nous l'explique, on peut pas le voir. Et du coup, je comprends à quel point c'est important d'être complémentaire. Même en termes de personnalité, il faut avoir vraiment quelqu'un qui est capable de fermer les écoutilles et de n'écouter que toi, presque.
Bien sûr, ouais, c'est ça.
Et toi, qui dois être beaucoup plus alerte et même prendre des décisions, en fait, finalement.
Ouais, complètement.
Quel coup de pelle tu décides d'accélérer un peu
Ouais, exactement. Ouais, c'est hyper stratégique, hyper technique. Et c'est vrai que oui, il y a des moments où on lance une relance parce qu'on sent le bateau qui s'affaisse, on sent qu'on n'est pas dans le bon tempo. Bah là, c'est à moi de dire quelque chose et c'est à moi de tout de suite être réactif, quoi, parce que si Claire elle change quelque chose toute seule, moi je vais mettre quelques coups avant de m'adapter. Enfin. Et c'est pas possible, donc c'est vraiment à moi de donner l'info, et après le coup d'après, paf, on a toutes les deux changé, quoi.
Ok, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, quand on avait préparé un petit peu l'interview, qu'on s'était appelé, tu me disais, Et c'est quand même pas évident parce que avec Claire, vous êtes très proches, mais une partie de l'année, vous êtes quand même adversaires. Mmh. Et notamment, j'en avais parlé avec Jérémy, j'en avais reparlé avec Julien. Le système de sélection, il est en aviron, c'est un choix humain qui est fait par un capitaine de dire rameur numéro un ou rameuse numéro une et la personne qui choisit l'équipage, quoi. Mmh. Tu m'avais dit que tu avais mis un peu de temps avant de l'appréhender, cette double facette. Comment est-ce que vous avez pu un peu avoir le déclic et comment est-ce que vous gérez du coup cette relation un peu, je dirais pas schizophrène, mais pas loin quand même.
Ouais. Oui, c'est vrai que les premières années, c'est vrai que nous, on est associés ensemble. En fait, c'est les deux meilleures françaises concrètement qui sont associées ensemble. Donc, on se choisit pas. On a la chance de vraiment bien s'entendre et que ça a tout de suite matché. Mais c'est vrai que c'est un sélectionneur qui choisit. Les deux filles s'associent et voilà quoi.
C'est l'équipe de France
et après, faut avancer quoi. donc, oui, on a eu. Ça a tout de suite matché. Mais après, c'est vrai que parfois, ouais, on se dit. Enfin, on est coéquipière, mais on sait qu'on est aussi adversaire, quoi, de par ce chemin de sélection, en fait, parce que les sélections sont faites en individuel. Donc, si on veut avoir sa place en équipe de France, il faut être dans les deux meilleures françaises, quoi. Donc, il faut battre les autres. Enfin, et du coup, c'est assez compliqué de se dire que, quand on est adversaire, en fait, l'hiver, on est adversaire, mais on est adversaire pour être coéquipière l'été. Donc, jusqu'où est-ce que ça va d'être concurrente? Enfin. Et c'est vrai qu'il y a parfois des années, c'était surtout au début où ça nous a un peu joué des tours, dans le sens où, du coup, la confiance, c'est quand même quelque chose qu'on construit. Et si on n'est pas complètement libéré avec l'autre, c'était compliqué, quoi. Enfin, sur des années où on a eu des blessures, où on a eu des coups de moins bien, pas oser le dire à l'autre parce qu'on se dit, on est concurrente. Donc, si je dis que je suis fatiguée, c'est que je suis moins forte qu'elle. Donc... Enfin, ça amène plein de un rapport comme ça qui est pas forcément très sain. Et en fait, ça a vraiment changé. Notre relation a vraiment changé. Je dirais il y a 2 ans à peu près, juste avant le confinement en fait, parce que là, on voyait bien qu'on était vraiment les deux meilleures françaises.
Ouais.
On n'avait pas trop de soucis avec le reste de la concurrence. Et du coup, en fait, cette position-là, elle nous a vraiment aidé parce qu'on s'est dit, ok. On est ensemble, on arrête d'être l'une contre l'autre et juste on fonce quoi. Et ce qu'on veut, c'est que le bateau à la fin, il aille le plus vite possible quoi. C'est pas de savoir si c'est Claire ou si c'est Laura qui est la plus forte en fait. C'est de quand on est toutes les deux ensemble, on aille vite. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a un peu arrêté de se tirer la bourre tout le temps, d'être un peu dans ce truc d'être concurrente. Enfin, c'est vraiment plus en fait se tirer vers le haut et céder dans le sens où quand on le fait en individuel, c'est pour penser à la suite en fait, et c'est pas sur le moment présent. C'est vraiment là, par exemple, on fait encore des entraînements où on est l'une contre l'autre. Enfin, c'est normal et c'est aussi ce qui nous fait progresser. Mais on sait toutes les deux qu'on le fait pour notre double après et pour qu'on soit hyper performante ensuite ensemble, quoi. Et ça,
l'équipe a pris le dessus sur les individualités.
Ouais. Et ça, vraiment, l'équipe a pris le dessus. C'est exactement ça. Et ça s'est vraiment confirmé quand quand j'étais blessée. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir et ça a vraiment assis notre confiance, dans le sens où j'étais blessée, ils auraient très bien pu me remplacer avec la troisième et dire Laura elle va pas au jeu, elle est blessée, on lui prend sa place quoi. Et en fait quand j'ai vu qu'il y avait aucune remise en question, que le bateau français c'était Claire et Laura et point barre, et en fait je me suis dit mais des fois on se prend la tête pour rien, en fait c'est juste nous et il faut juste qu'on fonce quoi. Et en fait depuis je sais que faut qu'on assure, faut qu'on soit les deux meilleures françaises et point barre, mais vraiment on le fait pour la suite en fait, pas juste pour le solo, on le fait pas juste pour les qualifications, on le fait vraiment pour après, pour la saison internationale et pour notre double en fait. Et ça a vraiment tout changé.
Ouais, mais c'est hyper complexe, je trouve, à appréhender, quand je t'entends parler, parce que effectivement, je me mets à la place de Claire au mois d'avril dernier. J'imagine que ça lui démange d'aller au jeu quoi qu'il arrive. Elle sait pas, elle t'a jamais montré un seul doute et tout, mais c'est vrai que si elle avait eu une seconde de doute
Tu
peux dérouler la pelote de laine, tu te dis ça peut effectivement aller loin, et en même temps c'est justifié
exactement.
C'est intéressant, mais en tout cas vous faites un super duo et ça s'est vérifié cet été. Et en plus c'était C'était hyper ouvert, non? C'était, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, tu vois, en regardant les images et même en repréparant l'interview, c'est que vous étiez vraiment dans le chapeau de tête. On comptait sur vous. Vous étiez attendu déjà plusieurs titres à deux, mais qu'il y avait des bateaux aussi que vous aviez jamais contre lesquels vous aviez jamais couru. Je crois que c'était.
À cause du Covid, il y a certains bateaux que oui, enfin surtout les bateaux hors Europe, en fait, on les avait pas vus depuis un petit moment.
Ouais.
Donc ça avait pas trop. Après, on n'était pas archi favorite dans le sens où ça nous est déjà arrivé de faire des très belles perfs. On avait déjà fait une médaille au championnat d'Europe en 2019 ensemble.
Ouais.
Mais on ne fait pas partie des favorites dans le sens où on était toujours un peu toujours sur les places de quatrième, cinquième. Enfin, on était jamais loin du podium, mais on était toujours un peu dans le deuxième wagon. Et du coup, on est arrivé sur les jeux, on voyait vraiment qu'on avait progressé sur la dernière ligne droite et on savait que ça allait jouer à rien. Vraiment, ouais. On est dans une catégorie où on est les deux, à chaque fois dans chaque bateau, c'est les deux meilleurs de chaque nation, en fait.
Ouais.
Parce que dans notre catégorie de poids, en poids léger, il y a que cette catégorie-là qui est olympique. Donc on sait que, enfin, les forces sont pas dispersées avec plusieurs bateaux. On est vraiment à chaque fois contre les deux meilleurs de chaque nation, quoi. Et du coup, ce qui fait que c'est une catégorie qui est hyper dense.
Aussi, ouais.
Ouais, qui est hyper dense, hyper relevé. Et donc, quand c'est dense, oui, on se dit, on a toutes les chances. Et puis, en même temps, on est 10 à avoir toutes les chances de médailles, quoi. Donc, après, faut réussir à convertir. Mais oui, on y allait en sachant que on avait des cartes pour jouer, quoi.
Mais du coup, c'est une des questions que je voulais te poser. Comment est-ce que tu te conditionnes pour te dire j'ai une chance, parce que il y a peut-être un bateau de favorites, il y a peut-être d'autres filles qui vous sont passées devant sur une dernière compétition ou d'autres dont vous savez que les performances peut-être en individuel montrent que elles sont très très fortes. C'est dur, tu vois, d'être un peu de dire sur la finale tout peut se passer. Comment est-ce que tu te conditionnes? Comment est-ce que vous vous êtes conditionné pour vous dire en fait c'est possible, on peut largement y être et on va le faire, quoi. C'est, je sais pas si vous avez travaillé là-dessus en particulier.
Oui, carrément. Sur notre confiance, on l'a beaucoup travaillé sur se sentir légitime à gagner. En fait, moi, c'est quelque chose qui beaucoup me bloquait avant, j'ai bien débloqué ces derniers mois. Sur mais pourquoi moi je peux gagner, enfin si je peux gagner les autres aussi peuvent gagner, quoi. J'avais pas forcément une confiance énorme, et en fait déjà d'être dans un équipage à plusieurs, enfin déjà d'être avec Claire, je sais que moi dès que j'ai ce type de pensée ou quoi, je me dis non, mais rien que pour Claire je suis obligée de, enfin il y a pas de doute, quoi, je fonce pour elle. Et et du coup on voyait clairement sur la dernière ligne droite qu'on avait progressé. On a fait deux podiums en Coupe du Monde. Alors, il manquait aussi des bateaux, mais on a fait deux podiums en Coupe du Monde, ce qui n'était pas arrivé. Enfin, ce qui n'était jamais arrivé, quoi.
Ouais, ouais.
Et du coup, c'est vraiment quelque chose où on s'est dit, OK, là, déjà, nous, on est à notre meilleur niveau. Donc, après, on ne sait pas ce que les autres... on ne sait pas la perf des autres. Mais en tout cas, nous, on n'aura pas de regret si on fait des bonnes courses.
Ouais.
Parce que déjà, on arrive... On sait qu'on est en forme, on est entraîné comme jamais, on se sent physiquement vraiment prête à faire ces Jeux Olympiques. Et du coup, après, une fois sur place, on a vraiment très bien géré le dernier mois, dans le sens où on s'est beaucoup, il y avait la problématique du climat aussi, de l'acclimatation à Tokyo,
chaud,
de la chaleur.
Ouais. Ouais.
Donc ça pouvait beaucoup jouer sur les perfs. Nous, le staff l'avait vraiment bien anticipé. On s'entraînait, on avait fait une thermo room sur notre lieu d'entraînement en France, qui reproduit exactement le climat de Tokyo. Et on faisait du vélo d'appart à l'intérieur tous les jours. Enfin, vraiment un truc pour que quand on arrive sur place, on n'ait pas... certes, il faisait 40 degrés et hyper humide, mais en fait, ça nous a vraiment pas tant gêné que ça parce qu'on était très bien acclimatés.
T'en as un niveau de performance là quand même assez élevé, quoi.
Non, c'était chouette, détails. Franchement. Ouais, ils avaient vraiment bien travaillé sur ça, et je suis persuadée que ça a énormément joué parce que on le sentait sur les premières séances qu'on a fait dans cette thermo room, c'était juste l'enfer. Et je me dis, si on était arrivé à Tokyo avec cette impression là, enfin, en faisant les courses 3 jours plus tard, ça aurait été dur, quoi.
Ah, ouais.
Et du coup, ça nous a bien aidé. Et après, en fait, on a fait la première course, on gagne notre série.
Ouais.
Avec pas le premier temps, mais on est dans les très bons temps, quoi. Et il y a pas un bateau qui se détache plus que les autres. C'est ça qui est bien dans notre catégorie. C'est certes, on n'était pas favorite, mais on n'était pas loin non plus. Et les favorites sont pas non plus à chaille devant, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a pas un bateau qui est intouchable. Donc c'est aussi ce qui fait que
charme,
c'est hyper excitant de concourir, quoi, parce que il peut tout se passer, en fait.
Ouais.
Et donc forcément, quand il peut tout se passer, oui, on peut être devant comme on peut être derrière, mais au moins on sait qu'on a nos chances, quoi. Et du coup, bah, on fait cette première course. Ensuite, on fait la demi-finale. Donc là, c'est une course vraiment qui est très stressante parce qu'on se dit qu'on a quand même, enfin, une demi-finale, on a tout à perdre, quoi, dans le sens où, bah, si on n'est pas qualifié, on n'est pas en finale et c'est hyper dommage, quoi. Ouais. Et du coup, de réussir à, ouais, on avait coché cette demi-finale, on avait fait deuxième de la demi-finale derrière les Anglaises. Et à partir de ce moment-là, comme si ça nous avait libérés en mode, ouais, on est en finale. Déjà, c'était un truc qui n'était pas arrivé. Enfin, c'est la première fois qu'il y avait un bateau français poids léger en finale des JO, déjà. Et en fait, ça nous a libérés en mode, je crois qu'on avait le cinquième temps de la finale, du coup.
Ouais.
Mais à deux secondes, enfin, vraiment à rien, quoi. Il y avait, donc en fait, on était juste hyper excités de faire cette finale. On était au taquet. Et on voulait juste rien regretter, se faire plaisir, se dire ok, bah c'est notre dernière course de la saison ensemble, on donne tout et puis on verra ce que ça dit à la fin, quoi. Et ouais, on a fait une course de dingue ouais, avec un finish incroyable. Ouais. Il y a les cinq bateaux en moins d'une seconde. On dépasse des bateaux à la fin, chose qui, ça, on l'avait vraiment beaucoup travaillé parce que c'est ce qui nous manquait parfois sur certaines compétitions. À chaque fois qu'on fait les places de quatrième, cinquième, les années précédentes, c'est parce qu'on se fait avoir sur la fin. Donc, c'est quelque chose qui nous avait quand même bien frustré. Je pense qu'on s'en est servi tout au long de la préparation pour vraiment toujours l'avoir dans un coin de notre tête et savoir pourquoi on s'entraînait autant, quoi. Et là, ouais, bah, c'était le moment de tout lâcher. Et franchement, ouais, on fait une super course et du coup, bah, médaille, quoi. Ouais. C'est dingue.
Ah mais la course est magnifique, franchement, et même à la fin, vous y croyez à peine. On a l'impression que même vous savez pas si vous avez vous avez gagné ou pas. Et c'était c'était vraiment une très belle course avec beaucoup de suspense, quoi, jusqu'au bout. Je mettrai les images pour les auditeurs, notamment il y a une petite vidéo aussi. On voit la joie de votre entraîneur qui fond en larmes.
Ouais, elle est géniale,
c'est très beau. Donc vraiment, c'était un grand grand moment de sport, quoi, et ça faisait plaisir à voir. Donc franchement, bravo, quoi, vous avez fait vibrer beaucoup de gens et à ce moment là quoi. Donc c'était très chouette, très 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 chouette. Et je sais plus ce que je voulais dire, on sent qu'il y a une super ambiance dans cette équipe, dans l'équipe de France, en tout cas d'Aviron, qu'il y a vraiment des valeurs partagées, qu'il y a des projets un peu communs et tout. Là, j'ai revu tes petites vidéos sur Instagram de ton stage, d'ailleurs. Allez tous suivre Laura sur Instagram, tout de suite, maintenant. Ça aide aussi, tu vois, d'avoir un bon groupe ou d'avoir une bonne cohésion globale ou un projet qui est assez on va dire serein, entre guillemets.
Carrément. Ah oui, c'est hyper important. Enfin, on est deux dans le bateau, mais on est beaucoup plus autour. Et puis s'entraîner dans un groupe, en fait, pour moi, c'est indispensable, en fait. On se tire tous vers le haut avec les garçons, avec les filles, et c'est vrai qu'en fait ces derniers mois, ça nous a beaucoup rapprochés à cause du Covid, mais le Covid a fait que, bah, par exemple, juste avant de partir aux Jeux Olympiques, on a été à huis clos pendant un mois sur notre lieu de stage avant de décoller pour le Japon, et donc on avait pris la décision de voir personne pour s'éloigner le plus possible du Covid, pour minimiser les chances de l'avoir, parce que un cas de Covid dans l'équipe, on était tous cas contact, on partait pas à Tokyo, hein, donc c'était réglé. Et en fait, et
ça,
ce qui
ça
fait
peur,
ouais, ça faisait très peur, et en fait on avait vraiment pris tous la décision d'une façon collégiale, tous ensemble, ok, ce sera dur, mais on prend la décision de voir personne. Et ça, en fait, ça a fait qu'on s'est vraiment serré les coudes à fond.
Ouais.
Et ça nous a vraiment rapprochés, quoi. On a passé un mois de stage, mais
il y avait les garçons aussi.
Il y avait les garçons, ouais, on était une petite quinzaine. C'était un mois, donc ça fait partie des stages les plus longs. Il est tous passé hyper vite pour tout le monde, parce qu'on était juste contents d'être là. Et en fait, on savait que c'était dur pour tout le monde. Mais on se tirait vers le haut, on faisait des après-midi où, bah, d'habitude, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent nous voir, on s'échappe un peu, et là, on savait qu'on n'avait pas d'échappatoire, dans le sens où on pouvait pas faire autre chose que juste être entre nous, mais du coup, on s'est vraiment on a vraiment encore plus appris à se connaître tous ensemble, à s'apprécier autre que par l'aviron. Et en fait, on a partagé des moments dingues tous ensemble en équipe, quoi. Et on s'est vraiment serré les coudes. Et ça fait que je pense qu'on avait vraiment un super groupe à Tokyo. Et puis, bah, un groupe aussi performant. Hein. Les garçons, ils font champion olympique en double. Donc, quand on a la chance de s'entraîner à côté d'un bateau, enfin, d'une référence comme ça, on peut que tous élever notre niveau, quoi. Et du coup, non, c'était vraiment chouette. Et depuis, je pense qu'on a vraiment créé quelque chose qui fait que oui, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe de France, quoi. Et là, en plus, dans le futur, on aura la chance de faire encore plus de stages, mixtes avec les garçons. Et ça, on sait qu'à chaque fois, ça nous fait beaucoup de bien, quoi. Ça tire vers le haut tout le monde.
Bon, bah, écoute, c'est super chouette. Super chouette. Ça fait plaisir à entendre. Et ça se ressent, ouais, que tu vois, que dans certaines équipes, il y a quelque chose qui se dégage et que ça tire tout le monde vers le haut, tu vois, et c'est pas, et à l'inverse, tu vois, quand tu le sens un peu moins dans d'autres équipes, tu le ressens aussi, donc c'est super, enfin c'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir le féliciter, et ça montre, je pense, même à tout le monde, même quand on est je sais qu'il y en a parmi les auditeurs qui sont soit qui managent des petites équipes ou qui sont entrepreneurs, bah en fait quand il y a une vie de groupe et une cohésion qui fonctionne, tout prend, quoi. Tout fonctionne bien, quoi.
Exactement. Donc. Ouais, non, c'est clair. Puis on a envie de réussir pour l'équipe, de se faire plaisir, quoi. Et nous, c'est vrai, quand on a vu les garçons faire champion olympique, c'était le jour de notre demi-finale.
Ouais.
Et c'était à 2 heures de notre course et on n'arrivait pas du tout à se concentrer pour notre course parce qu'on était
juste... en plus,
parce qu'on était juste trop contentes pour eux. Enfin, avec Claire, on était à la pesée et toutes les autres filles, elles étaient hyper concentrées, hyper froides et tout. Et nous, on pleurait de joie parce que les garçons avaient réussi, quoi. Mais comme si c'était nous qui avions réussi, tellement en fait, on était hyper soudés à ce moment-là et c'était trop chouette. Et ça nous a, ça nous a même donné des ailes et ça nous a donné envie de faire pareil le lendemain à la finale, quoi. Et ça nous a vraiment
Ça booste
clairement. Ouais.
Et là, t'as parlé de peser. Vous faites quelque chose pour, je sais pas, vous limiter l'eau ou vous limiter, je sais pas, ce que vous prenez un peu avant de vous peser. Ouais, vous faites attention.
Oui, alors après nous c'est vraiment on est sur un sport d'endurance de force quand même, donc on fait vraiment très attention avec le régime dans le sens où on perd pas au dernier moment parce qu'on le paye direct après sur à ce niveau-là si on est fatigué, si on est cramé, c'est mort,
ça,
quoi. Enfin, c'est on peut pas pousser autant que d'habitude, on n'a pas la même fraîcheur physique, mentale, enfin, et tout de suite ça se paye direct, quoi.
Ouais.
Et donc on fait vraiment l'effort nous de descendre à ce poids-là très progressivement, on est suivi aussi par un nutritionniste, donc ça c'était hyper important. Et après non, bah l'eau clairement on joue pas dessus parce que on sait, enfin on nous le répète assez que 1% de déshydratation c'est 10% de perf en moins. J'aimerais bien le vérifier une fois parce qu'on me l'a toujours sorti cette phrase, mais je sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas non, l'eau on fait vraiment hyper attention d'être très bien hydraté. Surtout à Tokyo sous des chaleurs comme ça, je pense que celle qui était déshydratée, c'était compliqué, quoi. Donc non, on fait très attention. Après on le fait progressivement plusieurs semaines avant pour vraiment se sentir en forme au moment où on est au poids, quoi, et pas être dans le creux de la vague parce qu'on est au régime, quoi.
Et c'est pas tu vous pesais du coup régulièrement
En période de régime comme ça où on
tous
doit être
jours,
au poids
peut-être.
Ah oui, bah tous les jours, ouais, carrément, au minimum, okay. Enfin même plusieurs fois par jour. Ah
ouais,
okay. Bah oui,
c'est pas ça fait pas une petite charge mentale quand même importante
aussi, carrément. Après, oui, on l'a aussi travaillé avec notre prépa mentale. Moi, c'est pas quelque chose qui me prenait la tête, le régime, parce que je me dis, c'est un poids, on doit y être, et puis je suis assez terre à terre. C'est vrai que Claire avait un peu plus de mal dans le sens où ce qui la faisait stresser, c'était si on n'était pas au poids le matin. C'est vrai qu'on peut être disqualifié, en fait, si on passe la pesée qu'on n'est pas au poids, on est disqualifié. Mais en fait, après, on a une heure de battement dans lesquelles on peut perdre le poids qu'on a en trop pour quand même être engagé dans la course, quoi. En fait, on a entre 2 heures et 1 heure avant la course pour aller se peser au poids. Bah nous, ça nous est jamais arrivé de pas être au poids parce qu'on fait les efforts avant. Mais oui, il y a déjà des bateaux qui se sont fait disqualifier parce qu'ils étaient pas au poids.
Et ils font quoi du coup pendant ces 2 heures-là?
Bah en général, ils se couvrent au taquet et ils vont courir ou ils font du rameur. En fait, c'est pour transpirer de l'eau.
Transpirer, voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Donc okay. Ça nous est déjà arrivé le matin de nous lever un peu trop haute et du coup d'aller courir 20 minutes histoire de perdre un peu et là passer la pesée et après tout de suite reboire, quoi. Mais on n'est pas déshydraté sur des longues périodes, c'est vraiment sur des minutes, quoi.
Ok, ouais, c'est pas comme les bocaux boxeurs qui sont capables de faire... Alors je sais pas si c'est vrai, mais il y a des mythes qui disent que ouais, ils font quasiment du 10 kilos, de la fonte de 10 kilos et qu'ils reprennent juste après, quoi. Bon, je sais pas comment ils font.
Non, on
mais...
fait pas ça.
Parce que vous avez la pesée et la course, c'est dans la foulée quasiment.
Bah la course, c'est 2 heures après.
Ouais.
Donc, on peut pas se permettre, enfin, même niveau digestion après, on n'est pas chouette.
Ouais, tu peux rien faire, quoi. C'est vraiment hyper clair. Je voulais juste peut-être terminer un peu sur la partie prépa mentale, parce que ça m'avait, ça m'a surpris un peu ce que t'as dit dans l'échange où tu me disais que des fois tu te croyais pas capable de gagner, ou en tout cas, que tu te remettais un petit peu en question à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que t'as beaucoup, beaucoup travaillé sur ce point-là. Je pense que tu vois, c'est un peu, je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur ou un petit doute, tu vois, mais c'est quelque chose qui est universel, tu vois, que beaucoup, beaucoup de gens ont. Et toi, ce que tu m'avais dit, c'est que bah t'as l'impression que certains l'ont pas du tout, que les grandes championnes elles l'ont pas, les grands champions l'ont pas. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil à nous communs des mortels, tu vois, de comment un peu oublier ce syndrome de l'imposteur et te dire moi aussi je peux le faire, et même les grands et les grandes doutent, quoi.
En fait, c'est clairement ça. Enfin, c'est la dernière phrase que t'as dit. Tout le monde doute, en fait. Et ça, c'est vraiment.
Mais comment on est sûr?
Un déclic.
Comment on est sûr?
De regarder, regarder des reportages, même sur les plus grands. Enfin, et moi, en fait, ce qui me bloquait, c'était à chaque fois que je doutais, à chaque fois que je me remettais en question, à chaque fois que j'étais pas sûre de moi, en fait, je me disais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Laura, enfin les autres ils sont sûrs, mais comment ils font pour être sûrs d'eux comme ça? Et en fait c'est une apparence, tout le monde doute, même les plus grands sportifs, les plus grands champions, si on leur parle juste avant leur course, enfin personne est sûr de gagner, quoi. C'est du sport, enfin tout peut se passer, donc tout le monde doute en fait. Et moi vraiment j'ai eu ce déclic là ces derniers mois avec mon prépa mental, où j'ai vraiment pris conscience en fait que même les meilleurs doutaient, quoi. Parce que je lui disais, mais elle doute pas. Quand je parle de mes concurrentes, elle, je suis sûre, elle doute pas. Et il me disait, mais
tu les mets sur un piédestal.
Mettais complètement sur un piédestal. Et il me disait, mais regarde son comportement et essaye de trouver vraiment de façon objective des moments qui montrent qu'elle doute aussi, quoi, et qu'elle était pas sûre d'elle. Et en fait, j'ai trouvé plein de petits moments comme ça à la regarder un peu différemment. Et en fait, j'ai déceler que oui, en fait, elle aussi, elle doutait, elle aussi, elle était pas sûre de gagner avant la course, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment fait un déclic énorme où maintenant je sais que, je veux aussi gagner. Oui, j'ai des doutes et j'autorise ces doutes. C'est hyper important de s'autoriser à douter, parce que le doute, c'est quand même aussi ce qui nous permet de nous remettre en question. C'est ce qui nous permet de progresser. Enfin, après, c'est juste qu'il y a des moments pour tout. Et oui, douter une heure avant la course, c'est pas bon. Mais douter un mois avant, quand on est en pleine prépa, c'est très bien, parce que ça permet de progresser. Et donc, c'est juste s'autoriser ces moments-là. Mais par contre, sur les moments où on doit être au charbon et où on doit être à fond, là, je me dis, ok, l'autre aussi, elle a peut-être douté hier soir. Moi, j'ai douté hier soir, mais aujourd'hui, là, je me lève et là, je suis une battante et je veux gagner aussi, quoi.
Ok. Est-ce que t'as personnifié le doute? C'est un exercice que j'ai fait avec mon préparateur mental, moi, il y a pas longtemps, là. Il me dit, quand tu doutes, tiens, ton doute, en fait, on va lui donner un nom. On va lui donner une petite forme. Alors, tu vois, nous, on l'a appelé Bartounet, tu vois. Parce que c'est la version hyper câline de moi qui effectivement met les autres sur un piédestal et qui se réduit un peu lui-même, tu vois. Et on lui a donné un nom, on lui a donné des vêtements, on lui a mis une forme et tout. Et du coup, maintenant, en fait, j'ai personnifié ça. Et quand, du coup, j'ai ce doute, je me dis, ok, là, c'est Bartounet qui arrive, il me dit un truc. Il me dit effectivement que je dois progresser sur tel domaine, et que là-dessus, je suis pas encore le meilleur. Mais bah merci Bartounet, maintenant tu peux
partir.
Je te serre la main, maintenant tu peux partir, tu vois. Moi j'ai fait cet exercice là et ça m'a bon, c'est un peu drôle parce que effectivement Bartounet, tu vois, c'est un peu risible et moi j'aime bien en rire et c'était aussi le but, tu vois, de rire de son doute. Pour l'accueillir un peu avec différemment et pas être dans le stress quoi. Mais toi t'as fait des je sais pas des petits exercices un peu comme ça avec avec le doute.
Pas comme les tiens, mais oui, j'ai plein d'exercices qui fait que à chaque fois que je doute, en fait, j'ai un ancrage qui soit aussi bien technique que stratégique, que et en fait où je sens que là, je commence à douter, je commence à stresser, à un peu perdre de confiance en moi, et ben non, en fait, hop, paf, comme c'est un peu comme de la méditation où être capable de tout de suite avoir un ancrage et se focaliser sur sur l'instant présent, sur ce que je dois faire en fait. Si par exemple je suis sur l'eau, je suis sur mon bateau une heure avant la course, je vois les autres concurrentes, je me dis waouh, elle a l'air trop forte et je commence à douter, à minimiser, et ben là je me dis non, bah je me reconcentre tout de suite sur ce que je dois faire là techniquement pour moi être à mon 100% quoi, et hop, tout de suite en fait j'ai des ancrages bien spécifiques qu'on a cadrés et qui font que bah hop, je switch, j'accepte cette pensée, maintenant je me dis ok, bah là je pense à ce que je dois faire maintenant quoi.
T'as un exemple d'ancrage pour comprendre exactement tu vois
après il y a des ancrages techniques dans le sens où bah je pense tout de suite à ma prise d'eau par exemple, c'est un moment technique du geste qui est hyper important à pas louper pour que le bateau après aille le plus vite possible.
Donc tu mets toute ta pensée sur ce moment là comme ça tu chasses un peu les autres pensées quoi.
Et
de l'hypnose méditation,
c'est ça
quoi.
Exactement. Et ça peut être sur la respiration aussi, enfin ça peut être sur plein de choses quoi. Et après, une autre chose que mon prépa mental m'a dit qui m'a vraiment fait réfléchir et qui m'aide là encore, enfin, tous les jours et je pense jusqu'à la fin de ma vie, c'est la phrase de regarder son concurrent, c'est perdre son avantage concurrentiel. Dans le sens où quand tu regardes les autres, en fait, t'as toujours tendance à les mettre sur un piédestal, à te minimiser. Et du coup, en fait, c'est jamais bon. Enfin, c'est de regarder les autres. Certes, tu prends des infos de temps en temps, mais d'être concentré sur les autres, c'est pas ce qui, toi, te fait avancer, quoi. Et du coup,
c'est
à chaque fois. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je commence à me dire, waouh, ouais, elle a l'air trop forte, ou je regarde les autres, waouh, ouais, elle rame trop bien. Bah, non, en fait, de les regarder, moi, je me minimise. Et du coup, bah, je suis moins forte. Donc, en fait, non, là, j'arrête de les regarder. Je suis juste concentré sur moi, ce que je dois faire, et me donner tous les moyens, quoi.
Ok. Mais c'est hyper cool de nous partager tout ça. en tout cas, tu vois, c'est un peu aussi le but de ce podcast. Tu vois, c'est aussi de livrer, tout à l'heure, j'ai dit le commun des mortels. J'aime bien ce mot-là, d'ailleurs. Mais ouais, de livrer un peu à tout le monde, tu vois, des techniques que les championnes et les champions utilisent et qu'ils puissent aussi se les approprier. Et je pense que c'est des outils aussi que tu peux peut-être réutiliser dans d'autres activités que le sport, tu vois. Bon, là, aujourd'hui, on parle de sport, mais...
Dans le monde de l'entreprise, c'est les parallèles, ils sont hyper intéressants.
Ouais.
C'est vraiment les mêmes choses, les mêmes situations qu'on rencontre, quoi.
T'as des exemples? Parce que toi, du coup, t'as mentionné la SNCF tout à l'heure.
Ouais, exactement.
T'as des exemples, de petits outils que t'as réutilisés dans ton job, et dans ta vie pro?
Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que, c'est hyper percutant, mais par exemple, je sais pas, rien que, quand je sais que j'ai une réunion stressante où je dois prendre la parole en public, enfin voilà, hein, quelque chose un peu qui rappelle cette adrénaline de la compétition, du stress, et ben j'essaie juste de repenser à qu'est-ce que je dois faire en fait, qu'est-ce que je me refais mon speech et je souffle un bon coup, et enfin comme quand je suis au départ d'une course et que je stresse et je souffle un coup, je pense à techniquement ce que je dois mettre en place, stratégiquement ce que je dois mettre en place, et puis se dire que c'est un jeu, quoi, dans le sens où, au pire du pire, enfin, moi, un exercice qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser, c'est, pour être complètement libéré, c'est de me dire, mais au pire du pire du pire du pire, si je loupe, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est vrai que, la Terre s'arrête pas de tourner, quoi. Et du coup, rien que d'en prendre conscience, de dire, en fait, pour certaines personnes, peut-être, ça peut paraître comme si je partais défaitiste à une course, alors qu'en fait, pas du tout, ça me permet juste de me dire que si je loupe, c'est pas la fin du monde. Donc en fait, j'ai je me mets pas de pression outre mesure, juste je fonce parce que j'ai trop envie de réussir, mais ce sera pas la fin du monde, les gens ils seront, mon entourage m'aimera quand même, ils seront quand même fiers de moi, et ça m'a vraiment permis de passer un cran. Et à Tokyo c'est sûr que ça m'a aidé, parce qu'avec toute la pression des jeux, je savais qu'on était attendu, la médaille, etc. C'est sûr que j'ai fait cet exercice juste avant la finale, je me suis dit mais au pire du pire du pire, si tu loupes, bah je loupe quoi, et puis bah rendez-vous dans 4 ans, ce sera dommage, mais tant pis quoi. Et il y aura aussi des avantages à avoir loupé quoi, ça c'est dur de les trouver, mais il y en aura aussi
les opportunités,
quoi.
Ouais.
Du coup bah en fait ça permet juste d'être complètement libéré le jour J et tout donner quoi.
Ouais, mais c'est hyper intéressant, ouais. C'est un exercice que je suis en train de faire en ce moment, et trouver les opportunités dans des choses un peu malheureuses ou dans des échecs,
mais
tu vois.
Mais il y en a toujours.
Et il y en a toujours, ouais. Et effectivement, quand tu trouves, quand tu fais cet exercice-là, tu te dis, ah bah en fait, finalement...
Et en fait, le plus beau, c'est quand, avec du recul, tu te dis, ah mais c'est chouette ce qui m'est arrivé. Ouais. Genre la blessure, moi, je le voyais pas du tout sur le moment, parce que t'es en pleine blessure à 3 mois des Jeux. Enfin, difficile de voir le positif quand même. Et après, par contre, j'ai trouvé plein de choses positives, en fait. Et je me dis, mais si ça se trouve... Enfin là, j'en étais même venue à penser en me disant, mais... Si je m'étais pas blessée, est-ce qu'on aurait fait cette médaille? Est-ce que j'aurais été aussi forte, quoi? Parce que j'ai débloqué plein d'autres choses en attendant, quoi.
Mais ouais, mais c'est clair. Mais je pense que je suis une personnalité un peu comme toi. Tu vois, je remets beaucoup les choses en question. Je suis un peu cérébral, et j'essaie toujours de. Je pense que je peux toujours faire mieux, et du coup, je me remets en question. Et effectivement, cet exercice de se poser la question de la pire chose qui puisse arriver aujourd'hui. Moi tout à l'heure quand je suis venu, je me suis dit exactement dit ça. Je me suis dit bon, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est on fait cette interview, ça se passe super bien, et puis je sais pas, ma carte mémoire plante et tout. C'est un truc. Bon je me rends compte ce soir, et puis je te rappelle en panique pour voir si demain matin c'est possible ou quoi. Tu vois, je me suis vraiment dit ça quoi.
Ouais.
Et ça marche super bien, ouais, cet exercice là et cette libère quoi. Tiens, ok. Il y a plein, je peux faire plein d'autres choses et je peux continuer, donc c'est cool. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de parler de tout ça. Je suis à fond là-dedans en ce moment, je lis des bouquins là-dessus et tout. D'ailleurs, toi, t'as peut-être quelques lectures à partager, ou des films, ou des trucs. Je te recommande la mienne là. On m'a offert la biographie de André Agassi.
Ah, ok.
L'autobiographie de André Agassi. Et en parlant de champions qui doutent, lui, il en tient une sacrée couche. Je sais pas si tu connais un peu son histoire. Je crois qu'elle est disponible qu'en anglais, donc il faut être un peu. Je t'avoue que là, je le lis un peu en mode lecture rapide, à lire un peu dans tous les sens. Mais ce qui est, grosso modo, son histoire, c'est que il est tombé dans le tennis parce que son père adorait le tennis. Mmh. Son père était entraîneur de tennis, et au moment où en fait. Tu vois, l'œil d'enfant qui joue a commencé à disparaître. Son père a pris un peu le dessus en lui disant « Non, tu vas être champion. » Et lui, il s'est de plus en plus détaché de cet enfant-là, de l'enfant qui prend du plaisir à jouer, et jusqu'à à vomir avant les matchs, quoi, tu vois, et à détester le tennis. Et pour autant, il a été... je pense 100 semaines numéro 1 mondial, 2 années, enfin je crois que 2 années de suite, enfin tu vois, quelque chose comme ça. Il remporte il a remporté tous les grands chelems, enfin tu vois, enfin c'est un joueur emblématique quoi, tu vois. Et en fait moi qui regardais beaucoup le tennis, je sais pas si toi tu le regardais, mais tu vois un peu le personnage qui regarde ses chaussures, toujours très fermé et tout. En fait c'est parce qu'à l'intérieur il doutait quoi, il était malheureux de son bonheur. Et il y a une partie où dans sa rencontre amoureuse avec Stéphie Graff, et je trouve que c'est très beau qu'il parle de ça, parce que on se rend compte à quel point c'est quand même important l'amour et le duo dans ta performance sportive. C'est que Stéphie Graff lui redonne un peu goût à tout ça, et lui refait un peu découvrir le tennis et tout. Donc voilà, c'était ma petite
trop
lecture
bien,
du moment. J'aimerais que ça sorte en film, ou tu vois, en documentaire, qui puisse un peu en parler. Ça serait vraiment
chouette
quoi. Donc si jamais t'as l'occasion, André Agassi, ça vaut le coup.
Je regarderai carrément.
Toi, ouais, il y a peut-être d'autres champions ou d'autres championnes que t'as regardé, que t'es allé observer sur des documentaires, ou
ouais,
pour aller chercher un peu de l'info, ou
Ouais, j'aime beaucoup Serena Williams.
Ouais.
Je trouve que c'est...
T'as vu le film sur son père, là, récemment?
Ah, sur son père, non. Il y avait une série sur... Enfin, je sais plus, le film.
Mais là, il y a le film qui s'appelle La méthode Williams, qui vient de sortir.
Ah non, je l'ai pas encore vu.
Qui est sur son père, et son père est joué par Will Smith. Absolument okay. Incroyable.
Ok.
Je t'en dis pas plus.
Non, je
veux
pas
te spoiler parce que...
Waouh. Ouais, bah je regarderai, mais non, je trouve que c'est un exemple, bah en termes de longévité, enfin ouais, de, enfin sur la durée, elle est incroyable, et puis, enfin ouais, c'est une femme qui a réussi des performances de dingue, quoi, et je trouve que c'est super beau de prendre exemple comme ça, quoi, et après sinon, j'aime beaucoup, ouais, Martin Fourcade.
Ouais.
Je trouve que assez incroyable, bah lui clairement dans ce qui vraiment me fascine, c'est bah sa faculté, voilà, je pense qu'il a eu énormément de doutes sur une année qui s'était un peu moins bien passée, et voilà, et je suis sûre qu'il a douté, enfin ouais. Même il le dit dans ses livres et tout, enfin qu'il a douté de fou, quoi, et réussir l'année d'après à regagner et à re-être au top. Je trouve que c'est beau parce que bah oui, une carrière sportive, on n'est pas toujours au sommet tout le temps, et ouais. Réussir à gagner une fois, c'est bien. À gagner deux fois, ça redevient un exploit, même si finalement, bah, les gens, ils se disent, bah, c'est normal, c'est Martin Fourcade, bah, ouais, mais il faut quand même réussir à regagner, quoi. Et des fois, on passe par des moments qui sont un peu moins faciles, et réussir à revenir comme ça, je trouve que c'est hyper ouais. Enrichissant, déjà, bah, en tant que sportif, de prendre exemple sur des personnes comme ça, parce que nous on se dit bah quand on est un peu dans le creux de la vague et que c'est la période qui est un peu moins bien, on se dit bah ok, c'est tout possible. Le monde passe par là, quoi.
Ouais C'est possible pour les autres, donc c'est exactement. Aussi pour moi. Ok, mais c'est vrai que ouais, son nom revient souvent, quoi, dans les sources d'inspiration, et je sais pas, t'as eu la chance de le rencontrer peut-être?
Oui, bah aux Étoiles du Sport, je l'ai rencontré cette année.
C'est vrai qu'il y était, ouais. Bon bah ce sera, j'attends mon heure, Martin, tu sais qu'on va se voir. Je sais qu'il a tendu une oreille en plus, il y a pas longtemps sur le podcast, donc ça serait cool de pouvoir le recevoir. Hyper chouette, hyper intéressant. Et toi, à quel âge, quand t'étais plus jeune, à quel âge tu t'es mis à rêver de tout ça? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou un moment où tu t'es dit, allez, tiens,
Non, jamais. Non, c'est vraiment petit à petit, en fait, je pense que c'est arrivé, et sans trop m'en rendre compte, en fait, c'est vraiment, je m'entraînais parce que j'aimais ça, j'aime ce sport, j'aimais aller au club, voir mes potes tous les jours, enfin, en fait, de fil en aiguille, bah, c'est vrai que mes performances, elles sont arrivées, et puis après, bah, j'ai eu la chance de, voilà, faire des études, qui me permettait de continuer le sport, donc je me suis jamais trop posé de questions de est-ce que j'arrêtais ou pas l'aviron, donc j'ai continué, et puis après ouais, les performances étaient au rendez-vous, et après bah on pense aux Jeux Olympiques, ouais. Et puis après on y est, et après enfin non, vraiment il y a pas, c'est pas un matin je me suis réveillée en me disant ok, demain je vais être championne, quoi,
ouais, okay.
Mais par contre ouais, ça m'a vraiment forgé un caractère que j'ai aujourd'hui qui peut me permettre de gagner quand il faut, quoi, et mais sans être une compétitrice à la base, quoi.
Ok, mais écoute, ça pourrait être, tiens, le titre de l'épisode, parce que ça m'a surpris, tu vois, et je trouve que c'est hyper beau de l'assumer, de dire bah en fait quand j'étais plus jeune j'aimais pas spécialement la compétition, et ça se construit, et ça montre que tout est possible, donc je pense que c'est inspirera beaucoup. En plus je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamans et de jeunes papas qui écoutent, donc ça pourra leur donner des petites pistes. C'est pas parce que voilà son enfant n'est pas hyper compétiteur
que ça
ne peut pas changer. Et d'ailleurs je suis très curieux de savoir, tu vois, l'aviron, vous avez quand même pas mal de compétitions, mais ça reste pas un sport sur lequel vous pouvez être professionnalisé à 100% ou
non.
Être pris en charge à 100%. T'es passé par, on l'a mentionné tout à l'heure, par l'école de management de Grenoble. Tu bosses à la SNCF dans le team athlète,
ouais.
Donc un dispositif hyper sympa qui est bien aménagé.
Oui.
Est-ce que aujourd'hui ça ressemble à quoi une semaine type pour toi, parce qu'en plus vous faites un sport, excuse-moi, mais c'est de l'endurance de force, donc vous devez faire beaucoup de foncier,
oui.
Donc il faut enchaîner les heures.
Oui.
Quand je suis arrivé, tu m'as dit bah ouais, je me suis entraîné ce matin, je vais m'entraîner ce soir.
Oui.
Ça ressemble à quoi, ouais, une semaine type en termes de charge d'entraînement et d'organisation, ça doit être impressionnant.
Ouais, 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 c'est assez costaud. Bah moi, une semaine type, c'est au minimum 11 entraînements par semaine.
Okay.
Donc on fait des cycles de 5 aussi, dans le sens où le lundi c'est 2 entraînements, le mardi c'est 2 entraînements, le mercredi c'est que le matin et on a l'après-midi off. En fait, et on répète ça en fait.
Okay.
Et du coup
jusqu'au samedi et
ouais,
dimanche et repos.
Non, le dimanche on a un entraînement le matin.
Okay.
C'est rare. Des fois on a le dimanche off complètement, mais c'est assez rare.
Ok, donc tous les jours.
Ouais, oui, oui, tous les jours.
Okay.
Et du coup, bah le matin c'est sur l'eau quasiment tout le temps, à
ouais.
différentes intensités pendant 20 kilomètres, donc ça nous fait 2 heures. Et l'après-midi c'est soit une séance en salle en musculation, soit du vélo, du ski de fond l'hiver. Parfois on rerame une deuxième fois dans la journée, mais ça c'est plus à l'approche des compétitions.
Okay.
Quand on fait vraiment du foncier l'hiver, on essaye un peu de casser la
voilà,
la
moto,
ouais, casser la routine et
ouais,
c'est, ouais, carrément. Et puis travailler autrement en fait, parce que c'est un, l'aviron c'est un sport hyper complet, donc on peut enfin, on peut travailler la, le foncier et la caisse de différentes façons quoi. Oui non, c'est un sport qui est pas professionnel, qui est amateur, mais on s'entraîne comme des professionnels hein, très clairement. Mais c'est juste que oui, on n'est pas, on peut pas vivre en France, c'est difficile de vivre de l'aviron. Après bah du coup ouais, j'ai la chance d'être avec le la SNCF en fait, donc j'ai un contrat de travail et je travaille à raison de bah par exemple là mon rythme c'est deux jours par semaine de travail, donc ce qui fait que je m'entraîne le matin de 7 à 9, je vais au travail de 10h à 17h et à 17h30 je retourne faire muscu par exemple et je rentre à 20h30 quoi. Enfin ouais, c'est des
okay.
Et puis faut remettre ça le lendemain quoi. C'est ça qui est le plus dur.
Ouais, ouais, exactement, mais bravo. Écoute, bravo, tu vois, c'est on sous-estime souvent, tu vois, la charge d'entraînement et effectivement, tu vois, tous les jours même le dimanche retourner ramer 2 heures tout le monde ne peut pas le faire en fait.
Ouais, bien sûr.
Enfin on pourrait te mettre tout le monde sur un bateau à ramer, mais il y a des matins t'as pas du tout envie d'y aller.
Non, c'est clair, bah c'est ça qui est
le jour où t'as plus envie,
ouais.
T'as plus envie quoi.
Ouais. Ouais, ouais, c'est clair, c'est ça qui est le plus dur. Bah le plus dur nous concrètement c'est l'hiver. Voilà, on n'a pas de compétition, c'est vraiment une période où on fait beaucoup de foncier, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures, on se fait très mal pour des échéances qui peuvent paraître parfois loin quoi. Donc c'est là où il faut réussir à garder cette motivation et à pas lâcher, parce que c'est les entraînements de l'hiver qui conditionnent la réussite de l'été quoi. Donc si on passe à côté maintenant, l'été prochain on sera pas du tout performante. Donc c'est hyper important, de même si les objectifs paraissent loin, de se mettre quand même des petits points de passage à court terme pour garder une motivation quand même tous les jours quoi.
Ouais. Le fameux qui pleure l'hiver sourira
voilà,
l'été.
Exactement.
on connaît ça, ouais. Et mais en tout cas c'est ouais, c'est impressionnant et c'est un gros rythme pas facile à tenir, donc bravo et c'est super inspirant. Donc
merci.
Et peut-être tu vois au-delà du bon, là on a parlé effectivement de l'hiver, on est en plein dedans. Donc c'est une grosse période effectivement où il faut beaucoup forcer. Toi après les jeux, j'ai vu que t'avais pris 3 mois de break. Ce que font pas tous les athlètes qui font les jeux, hein. Il y en a plein qui renchaînent assez vite finalement, j'ai l'impression. Pourquoi t'as fait ce choix-là, toi? Et puis, qu'est-ce que t'avais envie d'y faire aussi? J'imagine que t'as dû bien couper,
oui.
Donc.
Ouais, et... c'était hyper important pour moi de vraiment recharger les batteries à fond, parce que c'est vrai qu'on a peut-être un peu minimisé l'impact du Covid, du report des jeux d'un an.
Ouais.
Et en fait, c'était un peu, enfin, on s'en est pas rendu compte sur le moment parce qu'on était à fond dans le truc et parce qu'on était au taquet, on avait ces Jeux Olympiques dans la tête tous les matins en se levant. Mais de s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, et garder cette flamme et cette motivation intacte en sachant pas si à la fin ces jeux allaient être maintenus, ça crée quand même une certaine usure qui fait que une fois que c'est fait, on se dit waouh, on l'a fait. Enfin, c'est genre juste improbable comparé à ce qu'on pensait il y a un an. Enfin, on pensait pas être là, quoi. Et juste, c'est ouf. Mais du coup, je sentais vraiment que ma tête et mon corps avaient juste envie de couper. Et en fait, je me suis toujours dit qu'après ces jeux, je couperais pendant quelques mois parce que ça fait, enfin, finalement, je rame depuis maintenant, plus de 10 ans, j'ai jamais pris plus de 3 semaines off de vacances, quoi. D'habitude, on a 3 semaines off au mois de septembre et puis après, on rembraille, quoi. Et en fait, je me suis toujours dit que j'avais envie vraiment juste de souffler un coup, profiter. Et puis là, en fait, ça s'est fait vraiment assez naturellement parce qu'avec les sollicitations post-JO et tout, en fait, j'aurais pas pu m'entraîner normalement. De toute façon, enfin, ça aurait juste engendré plus de fatigue, je me serais plus blessée. Enfin, en fait, donc j'avais vraiment envie de prendre les choses les unes après les autres. Là, j'étais en mode, bah, je profite à fond de, enfin, j'ai tellement travaillé dur pour cette médaille que je veux juste profiter à fond pendant 3 mois et après m'y remettre là à fond. Et je sens vraiment que c'est le bon moment là. Depuis début janvier, j'ai repris vraiment sur le rythme intensif de, enfin, normal, quoi. Ouais. Et en fait, ouais, je sens que dans ma tête, j'ai trop envie d'aller à l'entraînement tous les jours. Je suis au taquet et je sais que bah voilà, les Jeux de Paris c'est dans 2 ans et demi, donc ça peut paraître très proche.
Vrai, finalement, ça va vite, ouais.
Ouais, ça va vite, mais quand faut y aller 2 fois par jour tous les jours, c'est parfois ça peut paraître loin aussi. donc faut aussi garder cette fraîcheur mentale qui est hyper importante pour la suite, quoi. Et moi, je pense que là, c'était le bon moment et en tout cas, je suis à l'aise avec cette décision d'avoir pris du temps pour moi et ça m'a juste fait trop du bien, en fait.
Bah complètement, t'as raison. Je pense que c'est nécessaire et il faut passer par là. Et puis tu vois, bah hier je parlais avec Ophélie David et elle me disait que bah tu vois, enfin elle a eu une grossesse, elle est revenue, elle a été championne du monde. On a parlé de maternité aussi et en fait le corps il le fait très bien, donc faut pas du tout se vouloir de faire des gros breaks comme ça. Au contraire, je pense que même ça fait du bien, quoi.
Après faut être patient aussi parce que quand on reprend, forcément quand on reprend après 3-4 mois off, forcément on n'est pas au niveau sur lequel on s'était arrêté, mais je pense qu'il faut juste l'accepter, être patient et se dire que ouais, ça va revenir, quoi. Donc puis je serai prête quand il faudra.
Ok. Et t'as fait quoi de beau du coup?
Ah, j'ai profité à fond. On est parti en vacances. On a eu pas mal de sollicitations. J'ai fait la fête. J'ai fait le tour de tous mes copains, ma famille que j'avais pas pu trop voir ces dernières années parce qu'on faisait tellement attention avec le Covid que chaque soirée c'était est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que, enfin, c'était vraiment dans la tête. C'était difficile, quoi. Et juste là, ouais, de profiter, de bien manger. Enfin. Ouais, les choses de la vie, sympa, quoi.
Bon, bah cool, mais cool, ça fait plaisir à entendre. J'ai une petite question de la fin que je pose à tous les invités. Tu peux y répondre soit du tac au tac, soit si t'as envie de détailler, tu peux. La toute première, c'est de savoir, c'est quoi une journée parfaite pour toi?
Une journée parfaite, bah concrètement, elle peut se passer de plein de façons différentes, mais c'est juste une journée où j'étais contente d'être là, où j'ai fait des trucs qui me faisaient grave plaisir, où je me sens bien, je me sens épanouie, et je suis contente de rentrer chez moi le soir en me disant, ouais, j'ai passé une bonne journée, quoi. Mais après, il peut se passer plein de choses différentes dans la même journée.
Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a une chose ou une question qu'on te répète tout le temps et qui te saoule par rapport à ton sport?
Bah c'est pas qui me saoule, mais c'est beaucoup, enfin c'était surtout avant, hein, mais si j'ai un, enfin moi ce qui bon, pas m'énerver, mais ce qui, ouais, la petite remarque que j'aime pas trop, c'est quand on réussit pas un événement et qu'on dit c'est pas grave, t'as le temps. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas le temps, quoi. Faut foncer parce qu'en fait, ça passe trop vite. Moi, je me revois des fois où on me disait t'inquiète, t'as le temps, et puis là, bah en fait faut y aller, quoi, parce que finalement le temps passe vite, quoi, et du coup, bah si on peut gagner dès le début, faut pas s'en priver, quoi.
Ok, et ben écoute, tu fais bien de le dire. Et effectivement, je peux comprendre, c'est un peu agaçant de mettre ça sur l'excuse du temps. Bon, c'est aussi réconfortant dans le sens où on pourrait se dire il y en aura d'autres et tu pourras
t'attraper. C'est dans ce sens-là, mais c'est vrai que quand on s'entraîne et que on te répond bah t'inquiète, t'as le temps. Oui, d'un côté, ça fait plaisir parce qu'on se dit bah c'est vrai que on n'est pas à la fin de la carrière et il y a encore plein de choses qui peuvent arriver, mais en même temps, bah ça va vite et on s'entraîne pour performer aussi, quoi.
Ok. Est-ce que t'as un gris-gris ou un porte-bonheur?
C'est pas un porte-bonheur, mais ouais, j'ai un doudou.
Ok.
Depuis que je suis née, on m'a offert ce doudou et je suis toujours avec, ouais, quand je pars. Quand je pars en stage, en compétition importante, ouais, il est toujours avec moi. Là, il était à Tokyo et ouais, okay. En fait, je me sens bien. Ça me fait référence, ouais, à la maison quand on est un peu loin, quoi, et ça fait du bien.
Ok, très chouette, très chouette. On a parlé un petit peu de contrôle freak versus adaptabilité, pardon, adaptation. C'est quoi ton habitude que tu trouves la plus louche quand tu te compares un peu avec quelqu'un qui fait pas de sport?
Mon habitude, bah c'est vrai que je suis pas j'ai pas trop d'habitude dans le sens où je me suis toujours dit faut pas trop être superstitieuse ou pas trop vouloir tout le temps faire la même routine et tout, parce que pas s'accrocher à un objet hyper important, parce que je me dis si le jour où je l'ai pas ça peut vite faire passer de l'autre côté, et du coup douter encore plus le jour de la compète et se dire j'ai pas fait la même routine que d'habitude, donc je vais pas réussir, j'essaye du coup d'être assez de pas avoir de trucs hyper cadrés et pas une routine
Ok. Ouais. Très chouette, très chouette. Si tu pouvais écrire une grande phrase sur un grand tableau qui pourrait être vu par le monde entier, qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire dessus? Celle-là, elle est dure.
Ah ouais.
Elle est toute nouvelle, celle-là.
C'est moi qui l'inaugure ou quoi?
Ouais, c'est exactement. Elle est dans un autre podcast qui est très connu aux États-Unis. Et je l'ai écouté là il y a 2-3 jours et je me suis dit, waouh, elle est vraiment géniale cette question, je vais la piquer.
Ouais. une phrase, je sais pas, je dirais.
Ou un mot, ou dessiner quelque chose.
Moi, je dirais de tout faire par plaisir, quoi. Enfin, de prendre du plaisir dans tout, parce que de bannir le il faut que, ou enfin, parce qu'en fait quand on dit ça, c'est qu'on n'est pas vraiment dans quelque chose qui nous fait plaisir, et en fait si on est dans le plaisir, on est dans la performance aussi, parce que enfin je parle d'un point de vue sportif, mais je sais que moi quand on est juste heureux d'être là, heureux d'aller à l'entraînement, heureux de se confronter, et qu'on se sent bien à l'aise, bien dans ses baskets, et qu'on n'est épanoui, on peut que performer, quoi. Et du coup, pour moi, ce serait de prendre plaisir dans ce qu'on fait, ou sinon changer, quoi.
Cool.
Et pas avoir peur du changement non plus.
Ça marche. L'avant-dernière question, c'est de savoir si un livre ou un film que t'as vu récemment et que tu recommandes à tout le monde. Non, ça peut pas être forcément récemment, mais ton film préféré, c'est quoi?
Je suis nulle pour ces questions.
Ah, il faut que tu les prépares. Hein.
Ouais.
Média training aujourd'hui. Ça, c'est la post-médaille. Il faut avoir le média training. Il faut une réponse tac au tac pour tout ce genre de questions.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans la playlist? Ton plat préféré? Ton film préféré?
Mon film préféré, c'est un film, c'est du divertissement, mais Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Ah,
ça,
là,
c'est un classique.
Ouais, exactement.
Là, je le connais par cœur. Hein, si
c'est vrai. Attention, itinériste, tu captes, c'est bon?
Oui,
ça capte.
Ça capte.
Eh ben, très cool. Eh ben, écoute, je me le remets très bien, tiens.
Ouais.
D'ailleurs, ça fait longtemps, Ça fait longtemps.
Vraiment.
C'est ouais, il est excellent, ce film.
Ouais.
Excellent.
Il y a plein de références qu'on voit, plus on le voit, ce film, et plus on capte.
En plus, on était assez jeunes, tu vois, quand
c'est
sorti, on est de la même génération, donc il y a plein de trucs qu'on captait pas.
Exactement.
Et que maintenant, on comprend, quoi. Très chouette. Et la toute dernière question que je pose, c'est un passage de micro, un peu comme un passage de flambeau olympique, et c'est de savoir à quel prochain athlète tu me recommandes d'aller rencontrer, justement, pour pouvoir échanger sur de la préparation mentale, sur de la gestion du stress, sur de l'esprit d'équipe, sur de la communication, ou même sur plein d'autres sujets, tiens. Qu'est-ce que tu me recommandes?
Je te recommande Chloé Trespeuche.
Ouais.
Qui vient d'être médaillée à Pékin là en snowboard cross.
Ouais, exactement.
Et
ouais.
Qui est une super copine, et à chaque fois qu'elle parle, je l'écoute. Je bois ses paroles parce que je la trouve hyper pertinente et hyper c'est hyper enrichissant de l'écouter. Donc je pense que ça va faire un beau moment.
Eh ben écoute, c'est prévu.
On s'est écrit
au mois de décembre. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je sais que tu vas être hyper chargé et tout, mais si jamais il y a une fenêtre de tir, on le fait. Tu me dis, je me déplace et tout. Elle me dit, je t'avoue que rappelle-moi fin mars, ouais, mais bah, promis, on le fait et tout, donc trop cool. Et donc du coup, vous êtes proches,
amis, ouais, ouais, on se connaît bien, bah de par la SNCF en fait, ouais. On travaille, on est dans la même équipe, et okay. Du coup, on s'est connus comme ça, et de fil en aiguille, ouais, on a pu travailler sur plein de projets ensemble, et en fait, ouais, on est devenus amis, quoi, on s'entend hyper bien. Okay.
Et vous partagez un peu des tips, je sais pas, des contacts entre championnes, tu vois.
Ouais, bah je sais que elle m'avait posé plein de questions sur les Jeux de Tokyo, sur le Covid, sur comment j'avais géré ça, et elle m'avait dit que ça l'avait bien aidé. Et puis moi, c'est vrai que ouais, à chaque fois, par rapport à son histoire, voilà, elle fait quand même ses troisième Olympiades là. Elle a été médaillée il y a 8 ans quand elle était toute jeune. Il y a 4 ans, elle loupe le podium. Enfin, ça a été hyper dur, et de rebondir face à cet échec. Ouais, on en a parlé plein de fois et c'est hyper. Hyper enrichissant.
Ouais, elle est vraiment inspirante, je trouve. Ouais, donc, j'ai vraiment hâte, et je suis très très heureux pour elle là, de cette jolie médaille. Franchement, c'est mérité. T'as suivi un petit peu les Jeux d'hiver?
Ouais, carrément. Ah bah oui, tous les jours à fond.
Trop cool, dès le matin levé. C'est et ça. Tout. Bon bah trop chouette. Écoute, merci beaucoup Laura. Je me suis vraiment régalé. C'était un super moment. On est rentré un peu dans les détails, dans la technique à certains moments. Je pense que moi qui aime beaucoup la préparation mentale, forcément je me suis régalé, donc ouais, c'était super chouette, et ça te va super bien d'en parler, donc trop trop chouette. J'espère que toi aussi t'as passé un bon moment.
Exactement, ouais, non, c'était vraiment cool. Sympa, ouais, merci d'avoir pensé à moi.
Bah écoute, avec grand plaisir, et puis bah écoute, je te dis à la prochaine fois que je repasse sur Lyon,
avec plaisir.
Salut, ciao. Trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.